Bonjour à tous et ravi de prendre cette demi-heure avec vous pour pouvoir parler d'innovation, parler de changement, parler de vraie vie, parler de solutions qui se développent depuis plusieurs années, mais surtout apprendre et comprendre pour pouvoir favoriser, je dirais, une réplication, une duplication de l'innovation dans d'autres territoires. Alors, je vais me présenter rapidement, puis présenter les deux personnes qui vont partager ce moment avec moi et avec vous. Donc, je suis Patrick Maléa, le directeur général du Centre national de référence santé à domicile et autonomie, une structure mise en œuvre par l'État, le ministère du redressement productif et le ministère délégué aux personnes âgées, et qui accompagne les acteurs de la filière de la santé à domicile et de l'autonomie qui souhaitent se transformer grâce au numérique. J'ai à mes côtés donc Madame Evelyne Sancier, directrice de projet de la Fondation des caisses d'épargne, et Monsieur Olivier Vallée, directeur marketing France du groupe Legrand. Alors, pour lancer rapidement quelques questions clés pour favoriser ce retour d'expérience, le Limousin, une région exemplaire à plusieurs titres, hein, une région qui a voulu anticiper ce qu'elle vivait au quotidien, c'est-à-dire un vieillissement important de la population, tout en étant une région très dynamique. Une région qui était dans l'anticipation, qui a souhaité fabriquer du changement, c'est-à-dire essayer de refonder de la proximité, refonder de la permanence, et qui, au moment où se jouait ce défi-là, s'est largement appuyée sur l'idée de mettre en relation des acteurs et préfigurer déjà la filière. Nous allons la semaine prochaine signer le contrat de filière, mais il y a des régions qui très tôt ont engagé le pas dans cette logique-là, et la région du Limousin en a été une. Alors ça m'amène à une première question justement à nos deux participants, c'est quel premier regard vous portez justement sur cette dynamique régionale et quels facteurs clés de succès vous pouvez mettre en avant à cette occasion?
Cette dynamique régionale est aujourd'hui une réussite, elle est née très tôt, dès l'année 2000, d'une volonté très forte des instances de cette région, conseil régional, conseil généraux, trois conseils généraux en région Limousin, de faire du vieillissement de la population un atout. Et de greffer autour de ce vieillissement de la population du développement, de l'activité économique, de la création d'emplois et surtout d'emplois non délocalisables. En 2001, un des conseils généraux a souhaité déléguer à la Fondation des caisses d'épargne pour la solidarité que je représente ici l'organisation d'un dispositif de téléassistance avancée. Et je dis avancée pour de multiples raisons, car au-delà de la réponse à l'urgence telle que nous la connaissons dans les dispositifs de téléassistance et téléalarme classiques, notre mission était vraiment d'instaurer un service de proximité. Et nous l'avons fait par l'implantation, et c'est notre modèle aujourd'hui, de plateformes de téléassistance qui sont devenues de véritables plateformes de services implantées au cœur des territoires, qui fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui ont autour d'elles créé de l'emploi, mobilisé d'autres services. Et nous avons, au fil du temps, répondu aux attentes des seniors que nous accompagnons et croisé un jour le chemin du groupe Legrand, qui est aussi très présent en Limousin. Et donc, nous avons, à ce moment-là, déjà anticipé ce que pouvait être l'apport de services via une filière.
Alors, Monsieur Vallée, justement, la filière en Limousin, quelques années avant la signature du contrat de filière.
Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que pour nous, bon, notre siège est à Limoges. Donc, on est un gros acteur international de l'équipement électrique et numérique des bâtiments. Et on a la chance, et ce n'est pas toujours quelque chose qu'on nous prête, de ne pas avoir notre siège à Paris, mais de l'avoir à Limoges. Et donc d'avoir profité de ce territoire du Limousin qui était un territoire, un magnifique champ pour nous pour expérimenter des solutions technologiques. Voilà, nous, ce qu'on en a tiré, c'est d'abord la naissance d'un sujet stratégique pour notre groupe. Hein, c'est vrai que quand on a parlé dans les années 2000 de la filière du vieillissement, au début on s'est un peu interrogé chez Legrand en se demandant comment on allait pouvoir se positionner sur ce sujet-là. Et puis très vite, à travers les expérimentations menées dans l'écosystème qu'on a su monter en région, avec les acteurs publics, avec les acteurs du service, bien sûr les usagers, on a très vite identifié que des solutions technologiques avaient du sens. et qu'on allait pouvoir s'appuyer sur ces développements du Limousin pour en faire pour nous aujourd'hui un sujet stratégique international.
Alors déjà, en synthèse, puisqu'on est là dans cette petite demi-heure pour partager ce retour d'expérience, on peut noter premièrement création d'emplois. Je pense que la Fondation, à ce niveau-là, l'a bien présenté. Deuxième point important, un grand groupe qui oriente sa stratégie sur un nouveau secteur pour pouvoir fournir des solutions, je dirais, compétitives à ce secteur. Et donc, ça m'amène à une deuxième question donc à Madame Sancier. Le premier résultat que vous pointez aujourd'hui, grâce à, je dirais, à ce déploiement.
Le premier résultat est que le public que nous accompagnons, c'est-à-dire des personnes en âge très avancé, 80 ans en moyenne, ne sont absolument pas hostiles aux nouvelles technologies, ne sont absolument pas hostiles aux solutions domotiques, pourvu qu'elles y voient un intérêt, pourvu que ce soit simple et que l'accompagnement aux usages puisse se faire. Or, l'accompagnement aux usages, dans notre cas, n'a pu se faire, et j'y reviens parce que c'est important, que par la grande proximité que nous avions avec nos usagers, de par le fait que nous sommes implantés au cœur des territoires et au service des professionnels du maintien à domicile et au service, bien sûr, de nos abonnés. Les solutions domotiques sont aujourd'hui des solutions de prévention. Jusqu'à présent, dans la téléassistance, dans la téléalarme, nous traitions la chute. Nous apportions une réponse pour relever le plus rapidement possible une personne âgée en difficulté qui avait chuté. Les solutions domotiques et particulièrement le parcours lumineux qui a été mis au point par le groupe Legrand et qui balise un passage qui va de la chambre à coucher aux toilettes la nuit. Nous avons donc réalisé des expérimentations, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure et plus tard dans la conférence. Nous avons réalisé une expérimentation qui a fait l'objet d'un rapport ESOP et qui pointait que ces solutions domotiques associées à un dispositif de téléassistance avancée et de proximité réduisaient par 3 le nombre de chutes et réduisaient considérablement l'hospitalisation derrière la chute. Donc ceci est essentiel quand on sait tous, professionnels de l'autonomie, que la chute est souvent fatale et que de toute façon la chute précipite dans la dépendance et que la chute a un coût de 8000 euros en moyenne pour son traitement. Donc premier retour extrêmement positif de la prévention au domicile pour limiter les chutes, mais aussi un accompagnement. De l'accompagnement pour faire accepter ces solutions domotiques. Je vous rappelle que dans l'expérimentation que nous avons menée, le taux d'acceptation des solutions domotiques associées à de la téléassistance était de 97,3% très précisément.
Donc j'entends à la fois des résultats très concrets donc en matière de prévention. Moi j'entends un mot qui me semble important et je vais vous faire réagir aussi en tant qu'industriel à ce terme. Les Français et les Françaises veulent des services. Et les Français et les Françaises veulent des services en proximité. Et aujourd'hui, la promesse technologique d'un grand groupe industriel, c'est une promesse qui rend possible un service de proximité à tout moment, au plus près de là où on en a besoin. Et aujourd'hui, pour un groupe comme Legrand, cette proximité, vous la traduisez déjà historiquement avec vos réseaux de distribution et d'installation. Dans ce secteur-là, quels sont les enjeux pour un groupe comme Legrand ?
Aujourd'hui, le groupe Legrand, effectivement, est historiquement partenaire des électriciens. Mais je dirais que dans le domaine de l'autonomie, on voit bien que les services arrivent par d'autres acteurs. Nous, finalement, on n'est que des metteurs au point de solutions technologiques. On doit trouver, nous, la bonne technologie, au bon prix et avec un niveau de fiabilité qui correspond à l'enjeu. Après, notre produit, seul... Finalement, en dehors du parcours lumineux qui, lui, intervient en local, mais le reste de nos produits n'ont de sens que si on vient greffer dessus un service qui va réagir sur des alertes, qui va réagir sur des détections d'événements. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes le partenaire, nous essayons de l'être, des opérateurs de services et au service de cette filière.
D'accord, merci. Un mot ?
Je pense qu'en Limousin, effectivement, nous avons été précurseurs de la filière Silver Economy, dans la mesure où nous avons réuni sur un même objectif, c'est-à-dire lutter contre la solitude et l'isolement, favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, Nous avons donc mobilisé des partenariats d'industriels, de centres hospitaliers. Nous avons aussi, nous sommes aussi intervenus de ce fait sur la formation, puisque bien sûr de nouveaux métiers à la convergence des technologies et des métiers de l'action sociale sont nés. Ces nouveaux métiers nécessitent des formations. Ces formations ont été organisées en région avec l'Université de Limoges et aujourd'hui nous avons un master en domotique qui nous amène à chaque fin de session à pouvoir recruter 25-30 domoticiens spécialement formés à ces métiers.
Mais c'est vrai que je peux m'en réjouir puisque dans le cadre des actions du Centre National de Référence, nous avons toujours trouvé en région Limousin des partenaires. Hein, je pense à Autonome Lab qui historiquement a été un partenaire qui a largement accompagné le développement de cette nouvelle culture du changement rendu possible dans les secteurs de la santé et de l'autonomie grâce au numérique. Je pense aussi au CNISAM qui a beaucoup œuvré pour qu'un certain nombre de métiers se développent, la formation dont vous parliez. Peut-être aussi l'accent quand même sur le talent des collectivités locales qui à travers aussi la maîtrise de nouveaux outils juridiques, je pense aux délégations de services publics, ont été aussi à leur juste place des acteurs de l'innovation. Une DSP, c'est un changement qui n'est pas si évident que ça. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots sur ce sujet-là ?
Tout à fait. Les conseils généraux interviennent bien sûr par délégation de services publics auprès de, donc en Limousin, 2 conseils généraux sur 3 sont en délégation de services publics avec la Fondation des caisses d'épargne pour la solidarité. Ils interviennent bien dans la diffusion de l'information, mais ils interviennent dans le financement, lourdement. Ces solutions domotiques doivent être accessibles dans le cadre d'un service public au plus grand nombre, dans les mêmes conditions. Et donc, au-delà de l'aspect promotion, les conseils généraux interviennent sur le financement direct de ces solutions et confortent là une véritable politique de maintien à domicile.
Alors, encore une fois, je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse avoir quelques échanges avec la salle. Je ne sais pas si c'était prévu ou organisé en ce sens. Sachez qu'il me semble important de toujours faire cette synthèse, parce que l'innovation dont nous parlons, c'est une innovation qui utilise des produits et des services qui sont disponibles là et maintenant. La véritable innovation, elle se fait dans nos têtes, c'est-à-dire la volonté de vouloir changer, changer pour obtenir un résultat nouveau, changer pour un mieux. Donc moi, ce que je retiens là des discussions que nous venons de conduire, mais qui pourraient être alimentées par un débat avec la salle, c'est premièrement une dynamique sur l'emploi, un emploi de proximité, rendu possible grâce à, je dirais, des solutions industrielles qui permettent de garantir cette promesse de proximité et de permanence au plus près du lieu de vie. Et derrière, une mobilisation dans une chaîne, dans une continuité, entre ceux qui ont la compétence, entre ceux qui réalisent le service et entre ceux qui le rendent possible. Pour l'avenir, comment voyez-vous aujourd'hui le développement, peut-être dans d'autres régions, à partir de ce cas d'école? Et puis, je le redis, je ne sais pas si, puisque personne ne me répond auprès de la technique, mais je ne sais pas s'il est prévu des échanges avec la salle. Si. Donc, je sais pas, il y a un micro, comment ça marche? Oui. Donc, si vous avez quelques questions, mais comment voyez-vous l'avenir le temps que monsieur présente sa question?
Déjà, moi, je voudrais faire juste passer un petit message et profiter de ce temps pour le faire. Une réflexion un peu sur tout ce qu'on entend aujourd'hui sur la silver economy. C'est vrai que, pour y tremper pas mal depuis quelques mois, on parle beaucoup d'innovation technologique. Je pense que c'est pas sur ce champ-là que doit se porter l'effort. Aujourd'hui, les technologies, elles existent. Et on voit bien que l'enjeu, c'est pas trop de trouver la bonne techno. C'est plutôt d'être capable de la mettre en œuvre, d'assurer l'accompagnement de l'usage de cette technologie, d'être capable aussi d'en assurer la fiabilité, la maintenabilité. Et voilà, donc pour moi, le vrai défi de la silver economy, c'est plutôt d'être capable de rassembler des acteurs qui viennent d'horizons différents, des acteurs publics, du médico-social, des acteurs du service, effectivement des industriels qui amènent, eux, des savoir-faire de technologie, d'être capable déjà de faire travailler ces gens-là ensemble. Si, il y a l'enseignement aussi qui, bien sûr, vient former les filières et accompagner tous ces acteurs. Donc, c'est être capable de trouver des modèles où tous ces gens-là vont travailler ensemble, de trouver après des business models finançables, parce que mine de rien, très rapidement, on s'aperçoit qu'il faut rentrer dans les enveloppes dont on dispose, hein, et dans les budgets qui sont aujourd'hui ceux à disposition notamment des départements, et que finalement, les vrais enjeux de la silver economy, c'est comment créer ces écosystèmes, comment monter des projets finançables, et puis après, comment déployer une ingénierie qui a fait ses preuves. Et aujourd'hui, inspirons-nous déjà de ce qui a marché, de ce qui a été fait. En Limousin, encore une fois, on n'est pas dans l'expérimentation ou dans le projet, on est dans du déploiement. On a des milliers de packs installés dans des foyers, on a des milliers de clients qui profitent aujourd'hui de cette téléassistance avancée. Et pour moi, il faut s'appuyer là-dessus et maintenant commencer à déployer ce premier niveau partout. Ensuite, viendront se greffer, bien sûr, des nouvelles technologies, bien sûr qu'on enrichira tout ça, mais aujourd'hui, on part de rien ou de pas grand-chose, et profitons de ce qui existe, de ce qui a fait ses preuves, et essayons de le déployer. Et nous, c'est notre travail au quotidien, d'aller au contact des régions, des départements, et déjà de passer ce message.
Une première question ?
Oui, Richard Stalis, je représente ici le Nord-Pas-de-Calais, le cluster senior Nord-Pas-de-Calais. Nous avons comme projet de pouvoir faire le même travail que vous avez fait, madame, mais en direction du patrimoine minier, en direction donc en particulier de la population de la région de Lens, de Douai et de Béthune, en population très vieillissante, comme vous le savez. Donc ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse en vous écoutant, c'est d'une part que le cluster lance un appel à ce que les industriels, si je m'adresse à M. Vallée, en particulier notre stand est en face, pour que nous puissions travailler ensemble, puisque nous représentons ici un groupe d'entreprises qui va participer à cette domotisation des résidences dans le patrimoine minier. La deuxième question, la deuxième chose, comment faites-vous fonctionner vos plateformes ? Comment fonctionnent-elles réellement ? Quelles sont, en quelque sorte, les contraintes ? Et à quelle distance sont-elles des personnes ? Bref, comment ça s'arrange ? Comment ça s'organise réellement ?
Nos plateformes sont à minima départementales. Et si nous sommes sur une métropole importante, elles sont vraiment au niveau de la ville. La proximité, je le redis et j'insiste fortement pour nous, c'est regarder le même ciel en même temps. C'est donc être au plus près de nos usagers. Et quand je dis être au plus près de nos usagers, c'est vraiment au plus près géographiquement, mais c'est aussi au plus près par la culture. Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons créé des emplois localement. Lorsque nous sommes, par exemple, en Limousin, eh bien un Limousin parle à des Limousins. Ces emplois, je le redis, sont non délocalisables. Notre patte, c'est vraiment de créer de l'activité. Ces plateformes fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles sont là, bien sûr, pour répondre à des appels, à des alarmes émises par les usagers, par eux-mêmes ou par les capteurs qui sont dans leur habitation. Mais nous avons aussi, dans le cadre de nos missions de la Fondation Caisse d'Épargne pour la Solidarité, nous luttons contre la solitude et l'isolement. Et donc, nous avons une pratique d'accompagnement, d'appel de convivialité, de visite à domicile pour justement maintenir, favoriser le lien social le plus, plus, plus. Et tout cela crée un environnement favorable donc à l'implantation de technologies. Car quand les personnes âgées sont en confiance, quand nous avons créé avec elles du lien, il est beaucoup plus facile d'expliquer, d'entrer au domicile et d'expliquer que des solutions techniques peuvent leur venir en aide. Nous sommes à 20 minutes de notre usager le plus éloigné.
Une question ?
Oui, bonjour. Je suis Manuel Géa, je suis le président de Centrale Santé, je suis membre du bureau exécutif de Medicène. Vous parlez sans arrêt d'innovation technologique, vous n'êtes pas le nom de l'autre. L'autre, ça s'appelle de l'innovation organisationnelle ou d'usage. Si vous voulez que les ministères, lorsqu'ils font des évaluations, prennent en compte cette innovation, il faut lui donner un nom. Et donc nous, dans Centrale Santé et aussi au Dolupol, on commence à lui donner un nom. Et on voudrait que, dans toutes les évaluations, dans les programmes FU et tout, il y ait un regard innovation technologique et innovation organisationnelle, de façon à pouvoir prendre l'ensemble des aspects. Sinon, on continuera effectivement à dire il n'y a pas que de l'innovation technologique, mais ça n'avance à rien. Il faut vraiment prononcer les noms. L'autre point aussi, je suis un peu surpris, c'est que la silver economy, la spécificité, c'est que ça démarre à 50 ans. Ça ne démarre pas à 80 ans. c'est officiel comme ça. L'avantage, c'est que ça donne... Attendez, la différence entre la gérontologie et vous savez, le troisième âge et la silver economy, c'est que ça démarre plus tôt. Et donc, ça démarre de gens qui ont des pouvoirs d'achat et qui peuvent dépenser. Et donc, qu'est-ce que vous faites pour cette population-là sur laquelle les sociétés innovantes vont aller parce que le marché est plus solvable et le financement différent de, des personnes de 90 ans?
Je vais juste... Je vais en profiter justement parce que, vous voyez, la petite demi-heure, puisque tout à l'heure il y aura une conférence plus longue, mais cette petite demi-heure a commencé sur un premier sujet qui pour moi a été un moment de plaisir, même si nous l'avons préparé, c'est l'emploi. Donc là, pour de bon, je pense que même si nous n'avons pas employé le terme innovation organisationnelle, le seul sujet que nous avons, et la Fondation des caisses d'épargne l'a largement répété, c'est le fait de démontrer qu'aujourd'hui nous parlons de développement d'un emploi, de métier. Et je vous l'accorde bien volontiers, dans un certain nombre de cas, sûrement d'innovation organisationnelle, même si je pense que dans le cas présent, nous ferons le métier bien traditionnel de l'assistance, qui consiste aujourd'hui à apporter la bonne réponse au bon moment à la personne qui en a besoin. Le deuxième aspect qui me semble important, c'est que vous avez tout à fait raison de pointer du doigt qu'il nous faut envisager d'aller plus tôt dans la prise de conscience. Pour autant, là, le sujet, encore une fois, sur l'innovation organisationnelle que vous appelez de vos voeux, c'est d'éviter que des entreprises ou des acteurs comme la Fondation des caisses d'épargne aient à convaincre 102 fois, 102 départements, pour pouvoir essayer de faire ce qui est le minimum que nous nous devons de faire dans une société qui n'acceptera plus ce qui aujourd'hui est largement évitable. Mais je partage avec vous le fait que, par ailleurs, la culture qui doit être la nôtre de l'anticipation est une culture qui doit nous projeter à intervenir, non pas là où il y a un besoin de service aujourd'hui, mais plutôt. Mais pour autant, nous devons relever le challenge de l'innovation là et maintenant. Parce que laisser des personnes aujourd'hui sans réponse dans une société qui se dit être une société moderne et avec un système de santé qui reste parmi les meilleurs, pour constater qu'au plan mondial, nous ne sommes pas finalement un pays où on vieillit bien, est une critique pour laquelle nous devons apporter des réponses maintenant. Voilà. Je voulais juste dire ça parce que, mais je pense que l'analyse qui est la vôtre mérite d'être projetée en complément de ce retour d'expérience.
Oui, donc juste.
Madame, je vous ai coupé.
Non, c'est bon.
Je voulais vous remercier pour le cours magistral, déjà. Mais on est là pour faire un retour d'expérience sur des choses réalisées. Effectivement, on peut parler de la silver economy si, et plus largement de tout ce qu'on peut y faire. Hein. Moi, je veux bien qu'on prenne 2-3 heures ensemble, mais le sujet là, c'était qu'est-ce que vous avez fait en Limousin qui pourrait servir d'exemple. Alors, effectivement, c'est sur une population très âgée, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est peut-être là notre priorité, même si demain, effectivement, la silver economy peut toucher des gens plus jeunes. On doit bien sûr déstigmatiser les solutions, on est d'accord, on partage tout ça. Là, on est dans l'idée de partager un retour d'expérience. Voilà ce qui a été fait, qui a fonctionné, comment l'a déployé, pourquoi ça a marché et comment on pourrait le déployer ailleurs. Voilà, ça n'avait que cette ambition et sûrement pas de balayer tous les volets de la silver economy.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur.
Oui, bonjour, Paul Godefroy de Philien. Je voulais poser une question, puisqu'effectivement on parle de déploiement dans le Limousin. Pour être un petit peu dans le métier, nous sommes confrontés aujourd'hui à une problématique de financement. Donc lorsque l'on parle de téléassistance avancée, il se trouve que, pour parler concrètement, le montant d'abonnement va être augmenté également, puisqu'il y a un coût de revient de base qu'on ne peut pas ignorer. Et je voulais savoir si qu'est-ce qui avait permis aux gens dans le Limousin de pouvoir acquérir ce type de dispositif.
Une volonté politique forte des conseils généraux de solvabiliser cette demande.
C'est-à-dire que les conseils généraux ont participé directement au déploiement et à la mise en place de ces services.
Les conseils généraux interviennent financièrement sur la solvabilisation d'un reste à charge. Alors, deux niveaux. Un premier niveau de délégation de services publics, un premier financement, un premier rapport d'un conseil général, et ensuite sur un reste à charge qui peut être autour de 18 euros, un deuxième niveau de prise en charge dans le cadre de l'APA, de l'aide personnalisée à l'autonomie. Ce qui fait que, par exemple, on peut avoir des dispositifs domotiques et de téléassistance avancée sur certains départements à 6,30 euros par mois.
Parce que, vous voyez que, et ça rejoint quand même la remarque qui était faite par monsieur, l'innovation qui se joue aujourd'hui, elle est dans nos têtes. Elle est dans nos comportements, elle est dans nos métiers. Les conseils généraux aujourd'hui, dans l'EPA des conseils généraux de la région du Limousin, sont en train de changer. J'étais récemment avec un de nos administrateurs, le président Kennel, du conseil général du Bas-Rhin, qui justement, dans cet esprit-là aujourd'hui, souhaite favoriser cette transformation-là. Elle n'est pas simple. Elle va être difficile, elle va nécessiter des arbitrages, mais pour autant, il y a une volonté aujourd'hui de conduire, je dirais, ce regard. Et c'est pour ça que le partage réel de l'expérience est un facteur clé de succès au moment où des entreprises, des fois jeunes, des entreprises de petite taille ou de taille moyenne, ne peuvent pas derrière reconquérir 102 bastions avec 102 pratiques différentes. Peut-être encore un mot de...
Non,
je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Juste pour compléter, nous, on a... Bon, on essaye de pousser aussi, nous... tant que faire se peut, sur le levier des conseils généraux, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, même si ce ne seront pas demain les seuls financeurs, et on l'espère, mais aujourd'hui, ce sont eux, en essayant notamment de créer une commission au sein de l'Assemblée des départements de France, avec lequel on a mis en place un partenariat, justement, pour faire du partage d'expérience, montrer la voie à des présidents de conseils généraux qui aujourd'hui ne se seraient pas lancés. C'est vrai que pour certains, ils se posent la question de lancer une expérimentation. Voilà, donc c'est simplement leur dire encore une fois, ne partez pas en 2013 sur un projet d'expérimentation qui va prendre du temps, dont l'évaluation sortira, si tout va bien, en 2015 ou 2016, parce que le sujet, il va devenir plus urgent que ça, et appuyons-nous. Voilà, sur les expériences menées, faisons confiance à ce qui a été fait et appuyons-nous là-dessus pour déployer plus vite. Voilà, on est dans une situation où ça fait des années qu'on dit que ça va nous tomber dessus. Il y a des départements, et la région Limousin, mais il y en a d'autres, sont déjà dans le problème. C'est pour ça qu'eux n'ont pas eu le temps d'attendre, on va dire. Et voilà, si on veut être prêt, et si on veut rendre les services attendus, il faut s'y mettre tout de suite.
Voilà. On va laisser le mot de la fin à Madame Sancier, justement, puisqu'il nous reste une minute, pour avoir tenu ce moment un peu dynamique, mais c'était l'esprit de cette conférence et de ce partage d'expérience en 30 minutes. Je vous en prie.
Des produits, bien sûr, les industriels sont là pour ça, mais aussi des services, et je le conclurai, dans un contexte de grande proximité. Ce sera la force de nos prestations demain.
Merci à tous.
Merci.